Mais Nîmes, c'est une ville de football.
Exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
L'équipe de Nîmes Olympique.
Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
Il y a un amour modéré pour ce club.
Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nous joueurs, c'est super.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle émission du 11 de Nîmes, la 24e déjà, ça passe très vite. On est bien sur Rage, le 102.5 sur Nîmes et le 90.3 sur Avignon. Le 11 de Nîmes, l'émission 100% Nîmes Olympique, tous les mercredis à 13h. Nouvelle émission donc, et nouveaux animateurs. Puisqu'aujourd'hui, c'est donc moi, Benjamin, qui remplace Yann, absent, Alexandre, absent. Mais je suis toujours aux côtés du fidèle Bill. Bill, comment vas-tu ?
Hello, ça va très bien, avec un nouvel animateur. Et puis, on va voir comment ça donne. Et puis, je crois qu'on a un invité aussi.
C'est pas mal, ouais. T'es à la technique, ça y est, on t'a mis à la technique aujourd'hui.
Exactement.
Au poste, ouais. On s'adapte.
C'est ça, s'il y a des bruits que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ce sera de ma faute.
Voilà, on s'excuse d'avance. Ça sera Bill, hein, vous jetterez sur lui.
Exactement.
Un nouveau chroniqueur avec nous aujourd'hui, puisque c'est Merlin qui fait sa grande première avec nous. Comment ça va, Merlin ?
Ça va, merci, et toi ?
Ça va, impeccable. Écoute, je suis très content de t'enfin avoir avec nous. Tu nous avais fait des cultures réno depuis le début de saison, et là, on t'a enfin avec nous. On est très heureux
dans le studio
de ça. Et on n'est pas tout seul. On a un invité de marque qui a joué à l'Olympique de Marseille, mais qui a joué évidemment au Nîmes Olympique, et concerné par cette émission. C'est Johnny Ecker.
Salut.
Ça va ?
Ça va, impeccable. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui.
Eh ben, on est très heureux de t'avoir. Et tout de suite, on perd pas temps. On fait un sommaire de l'émission. Et dans ce sommaire de l'émission, cette semaine, programme classique, puisqu'on a deux matchs à analyser. Cette défaite donc face à l'Olympique de Marseille, 2-1. Et aussi un match qui arrive, celui de samedi à 20h face aux Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 33e journée. On fera évidemment aussi un petit retour sur notre invité du jour, Johnny Ecker, qui a joué de 1993 à 1999, puis de 2006 à 2007, si je ne me trompe pas, c'est bien ça.
C'est ça.
Et qui était notamment de la fameuse épopée de 96 en Coupe de France, ça fait 23 ans déjà maintenant. Et on fera un retour sur son actu récente, puisqu'il est aujourd'hui éducateur à l'Espoir Football Club Beaucairois. Mais avant tout cela, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit tour de la crocosphère, évidemment, l'actu du Nîmes Olympique. C'est parti.
Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère.
Et on commence cette crocosphère avec Merlin. Merlin, tu vas nous parler de la réserve qui est malheureusement pas au top et qui est un petit peu dans le dur en ce moment. On t'écoute.
Et oui, encore une défaite du Nîmes Olympique 2, du coup. Avec ce score de 1-0 contre Stade Bordelais. Encore un match sans marquer, c'est le quatrième d'affilée. On voyait les réactions de Théo Saint-Luce sur Twitter et du coach Dumas qui disait qu'il manque vraiment d'un buteur. Voilà, donc dernière victoire le 19 janvier.
Ça commence à remonter là, c'est un peu compliqué pour notre réserve. Johnny, on sait que le Stade Beaucairois remonte en CFA2, mais on sait que vous suivez aussi cette réserve. Est-ce que vous avez déjà vu des matchs de cette réserve cette saison ? Est-ce que vous tenez un petit peu au courant des résultats de la réserve et des jeunes ?
Oui, je me tiens au courant de par la presse, mais honnêtement, non, j'ai pas pu voir de match puisque je suis très occupé avec le club, mon club, donc priorité d'abord à ce que moi les miens font, et si j'ai l'opportunité d'aller voir les autres, j'essaie d'y aller.
Bon, ça marche. Bon, alors du coup, prochain match, c'est face à Romorantin, c'est ça ?
Romorantin, premier relégable, donc match super important pour le maintien. C'est samedi à 18h. Voilà, le maintien, on regardait vers le haut en début de saison, maintenant on regarde vers le bas.
Il reste 5 matchs, hein, je crois, c'est ça ?
Il reste 5 matchs, ouais.
Donc, ça va être pas facile. Bon, ça tenait à cœur à Alex, on va en parler. C'est Umut Bozok qui a cassé sa télé avec le célèbre youtubeur Mohamed Eni. On va s'écouter un petit extrait de tout cela.
Oumoud Bozok. Comment ça va, frérot?
Ça va, frérot.
Ça va, tranquille, bien? Les amis, dans l'histoire, il y a eu Maradona, puis Messi, puis Oumoud Bozok. Il rentre dans l'histoire, les amis. C'est plus Oumoud Bozok, c'est Mesut Bozok. Même potentiel que Ozil. Alors, frérot, pas trop dégoûté pour la défaite? Ça va, c'est...
Non.
Non?
Tout va bien.
Ben écoute, parfait, tout les amis. Ah oh, qu'est-ce que tu fais?
Bon, Oumoud Bozok qui a donc cassé la télé de Mohamed Ennis. Pour la première fois, c'est pas Mohamed Ennis qui a cassé la télé, mais c'est bien Oumoud Bozok. Et comme Oumoud l'a juste titre rappelé sur Twitter, il a enfin cadré une frappe. Donc bravo à lui, on le félicite.
T'es dur là quand même. Hein.
Ah écoute.
T'aimes bien être dur avec Bozok.
Ouais, bah écoute, faut un peu qu'il se relève un petit peu là. Il a un peu moins marqué ces derniers temps quand même.
C'est vrai que ça fait un petit temps qu'il n'a pas marqué et qu'il ne marque pas beaucoup cette année, mais bon.
Mais en tout cas, un bon moment d'autodérision de sa part et c'est quand même à souligner malgré tout.
Mais il pète très bien les télés, hein, il est hyper efficace. Il a un coup de pied, paf.
Il a un bon coup de pied, ça c'est vrai. Ouais. Bon, on va parler bâton de bourbotte. Bill, tu peux nous en dire un petit peu plus. On l'a perdu, je crois, ce week-end face à Marseille, du coup.
Bah ouais, c'est ça. On l'a regardé qu'une semaine, puisqu'on a joué deux fois dans la même semaine. Le bâton de bourbotte, c'est le fameux trophée invisible que les équipes se transfèrent de victoire en victoire. On avait réussi à le gagner et à le conserver même contre Rennes. Et on l'avait gagné contre Caen, qu'il avait lui-même pris à Monaco. On le conserve contre Rennes et on le perd contre Marseille. J'ai fait un peu mes statistiques pour voir qui allait l'avoir en fin de saison. Et je pense que Marseille, je le vois bien le perdre contre Strasbourg dans deux ou trois journées. Et Strasbourg, je le vois bien finir la saison avec le bâton de bourbotte pour féliciter leur belle saison, on va dire, aux Strasbourgeois.
Bon, on suivra ça avec attention alors. Et puis cette semaine, on a vu un petit nouveau à l'entraînement du Nîmes Olympique. C'est Nassim Chadli qui est né en 2001. Donc ça ne rajeunit pas tout ça. Il y a de plus en plus de jeunes et encore plus jeune maintenant à l'entraînement du Nîmes Olympique. C'est un jeune attaquant qui joue avec les U19 qui a donc eu l'honneur mardi, pour la première fois, de s'entraîner avec les pros, lui qui est originaire de Bagnols-sur-Cèze. Donc voilà, encore une preuve de la part de Bernard Blacard d'intégrer des jeunes dans ce groupe. On verra ce qu'il adviendra de ce jeune joueur. Merlin, on passe avec toi sur cette grande interrogation, s'il y avait des supporters nîmois à Marseille ou non qui devaient faire ce grand déplacement du côté de Marseille. Est-ce que c'est passé ou non?
Alors, grosse déception, hein, ça, tout le monde l'a vu ce week-end. Il y avait un arrêté ministériel donc, qui est tombé vendredi. Sur ce fait, les groupes de supporters ont finalement annulé leur bus, alors qu'ils avaient prévu d'y aller quand même. Il y a des conséquences financières aussi. Et voilà, je trouve dommage que le club et les joueurs n'aient même pas eu une petite pensée pour les supporters absents.
Bah, ils en ont eu avant. Les joueurs se sont manifestés quand même par rapport à ça. C'est vrai qu'après, ils ne l'ont pas refait, mais on avait vu en conférence de presse, je crois que c'était Anthony Briançon qui avait réagi par rapport à ça. Et
Renaud Ripard aussi, je crois qu'il y avait
qui avait dit qu'on avait en conférence de presse.
Je pense que les gens en sont conscients quand même, mais malheureusement, eux aussi sont impuissants, malheureusement, comme nous. Bon, on espère que ça se débloquera pour les années prochaines, mais c'est vrai que c'est quand même des nouvelles qui sont un petit peu désolantes, quoi.
C'est clair.
Ouais. Après, ça ne m'a pas empêché d'y aller.
Il y avait plein de Nîmois. On en a vu plein au Vélodrome. Bill, on était côte à côte et c'est vrai qu'on a vu plein de...
Il y avait les enfants qui osaient se lâcher derrière nous parce que c'est toujours plus facile comme ça en infiltration de pouvoir encourager l'équipe adverse sur son propre terrain.
Il y avait des madames qui criaient « Allez, Nîmois !» comme ça. C'était incroyable.
On avait
là,
c'est vrai qu'on était un endroit où on avait beaucoup de Nîmois autour
plein
de nous.
Plein de Nîmois, c'est vrai. Et d'ailleurs, on continue sur cette actualité au Vélodrome. Il y a eu 62 214 spectateurs ce samedi. Et alors, à confirmer ou pas, mais c'était un record pour le Nîmes Olympique dans un match officiel. Il n'y avait pas eu autant de spectateurs pour un match de Nîmes depuis 1958 et 1961. C'était lors des finales de Coupe de France face à Reims. Donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui trouvent une meilleure stat que celle-là, moi j'ai pas trouvé mieux, mais il me semble que c'est le
record absolu.
Le record absolu, ouais. Et Bill, j'enchaîne tout de suite avec une superbe interview de TJ Maestro Savani dans l'équipe.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
C'est pas fréquent d'avoir TJ en interview avec cette interview livrée par Hugo Guimet, pardon, qu'on avait reçu ici. J'y suis né, j'y mourrai, en référence à son quartier de Saint-Gély notamment, et à sa communauté, on va dire, gitane, dans laquelle il vit au quotidien. Et donc c'est un attachement vraiment très très fort à sa famille, à ses parents évidemment, ses frères, ses amis aussi, et toutes les personnes de ce quartier-là. Ce qui est ce qui nous intéresse, nous, forcément, puisqu'il est beaucoup question de transfert relativement à TJ Savanier pour le mercato à venir, c'est qu'apparemment, les portes sont ouvertes pour qu'il bouge avec sa famille.
Parce qu'on a vu sa fin d'interview là, qui disait qu'il était prêt maintenant à partir. Quoi.
Exactement, que sa famille était prête à le suivre, ce qui est un grand changement, puisque jusqu'à présent, on savait que géographiquement, il fallait qu'il soit proche de Montpellier, ce qui nous permettait notamment de le conserver. Après, on a eu aussi des rumeurs de transfert vers le MHSC. Et on apprend qu'il est prêt à bouger. Donc, a priori, on le voit mal aller au MHSC vu qu'il dit qu'il est prêt à bouger. C'est vrai que les rumeurs qui semblent pour l'instant le plus fondées sont celles qui l'amèneraient du côté de Saint-Etienne. Maintenant, on n'est qu'actuellement au mois d'avril. On sait à quelle vitesse ça peut bouger, ce genre de choses.
Bon, on en reparlera un petit peu plus avec Johnny tout à l'heure, ce qu'il pense des prestations de TJ, quand même la révélation, quand même, je crois, côté Nîmois en Ligue 1 et qui a fait frémir toute. Tout le monde en Ligue 1 cette saison. Allez, juste pour terminer, c'est Denis Bonga qui était dans J+1, il me semble.
Tout à fait, c'était Denis Bonga.
On va écouter un petit extrait de ce qui s'est dit rapidement dans J+1 sur Canal+.
Depuis petit, à cause de mon grand frère, voilà, il regardait les matchs de Marseille, il vivait Marseille, donc voilà, il m'a mis dans le bain. Et du coup, depuis petit, j'ai accroché avec ce club. Après, c'est pas pour autant, comme vous l'avez pu voir, j'ai joué contre Marseille, c'est pas pour autant, je vais pas jouer pour mon équipe Nîmes, tout simplement, et c'est ce que les supporters ne comprennent pas, et voilà, c'est malheureux, mais bon, moi en tout cas, j'ai une équipe et je joue pour elle.
Bon, Denis Bonga qui nous rappelle donc son amour pour l'Olympique de Marseille et qui s'explique sur les nombreuses critiques qu'il prend par rapport à ça.
Ce qu'il voulait dire, c'est ce que les supporters ne comprennent pas, c'est ce que Benjamin ne comprend pas.
Non, il n'y a pas que moi quand même. Non,
il y a moi aussi.
Moi, je comprends tout à fait. Il ne va pas se cacher d'un amour de club qu'il a depuis qu'il est gamin. Quoi. Donc,
non, bien sûr, évidemment. Non,
après, il a fait des beaux matchs contre Marseille, donc...
C'est vrai, contre Marseille, il a été hyper efficace. Eh bien, on enchaîne tout de suite et on va faire une petite pause. On se retrouve en deuxième partie d'émission avec Johnny Ecker. On verra un petit peu son actu et puis on parlera du match de Marseille et ensuite de Bordeaux. On se retrouve tout de suite dans le 11 de Nîmes.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Et on est de retour dans le 11 de Nîmes sur Rage avec Bill, avec Merlin et avec donc Johnny Ecker, notre invité spécial pour cette émission. Et on est très content de l'avoir avec nous. Et on va tout de suite donc parler de toi, Johnny. Johnny, tu as 46 ans depuis janvier. Tu es né à Rouen, en Seine-Maritime. Et alors, tu as grandi à Beaucaire, c'est ça, dans le Gard. Mais raconte-nous comment ça s'est passé, cette migration de Rouen à Beaucaire. Quand même, on voudrait savoir un petit peu.
Oui. Bah, tout simplement, mes parents ont décidé à l'âge de 11 ans, enfin moi qui avais 11 ans, de venir dans le sud. On avait déjà de la famille ici. Et puis on a quitté un peu la grisaille de la Normandie. Et depuis, je me dis, je suis fier d'être normand, mais je suis sudiste d'adoption avec la mentalité du sud.
Passer des vaches normandes aux taureaux du sud.
Ah oui, complètement. Bah, je m'y suis frotté d'ailleurs maintenant. Par contre, les taureaux, fini. Pour moi, c'est terminé. Ça fait mal.
Et donc, tu grandis donc avec le Stade Beaucairois. Tu fais tes grands débuts avec le Stade Beaucairois. Et tu pars à 18 ans au Nîmes Olympique, repéré par René Girard. C'est bien cela ?
C'est tout à fait ça.
Et donc, tu pars directement en centre de formation ou est-ce que tu passes directement avec les pros ? Comment ça se passe ?
Non, bah en fait, effectivement, je suis junior. Donc, je joue avec les seniors du Stade. Et puis, René était venu voir un match et puis il m'a repéré. Donc, il m'avait demandé d'intégrer le Nîmes Olympique, mais bien sûr, sans rémunération, sans rien du tout. Donc, j'étais quand même très hésitant et j'y suis parti, poussé par ma belle famille. Et j'ai joué à l'époque, on avait trois équipes seniors à Nîmes, donc qui était la DH. Et puis, j'ai fait une année avec Emilio Salabert, qui je dois beaucoup, et Jean-Louis et Monsieur Oziol, Jean-Pierre Oziol, pardon, qui m'ont vraiment aidé à être. Ce que j'ai été et on a galéré. J'étais aussi à Cap d'Aramdan et puis à partir de là on a réussi à décrocher un petit contrat à la fin de la saison qui nous a permis d'intégrer le centre de formation.
Donc ça c'était en 1980. Ouais, ça vraiment
même les années je me rappelle plus.
Et donc tu débutes donc en pro en 1996 si mes en 93. Si mes souvenirs sont bons, ouais. Et donc c'est juste après la saison où Nîmes descend de D1 à D2. Et bon, ça suit malheureusement trois années qui vont mener Nîmes malheureusement vers, vers la nationale.
Purgatoire. Ouais, ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai réussi à monter parce qu'il y avait des joueurs chevronnés avec de grands noms, mais qu'on n'arrivait plus trop à jouer. Et puis on a intégré pas mal de jeunes, Antoine Prigé, moi-même, Abderhamdan. Et par la suite, bah, notre insouciance, notre envie, et puis on a tout donné. Et puis à partir de là, l'aventure a débuté, on a commencé à remonter.
La fameuse aventure de 96, la fameuse épopée.
Oui, là, c'était une sacrée épopée, mais maintenant, on a eu quand même des joueurs d'expérience avec nous, puisque cette année-là, on remonte en D2. On évite la descente. Par derrière, par la suite, on joue la Coupe d'Europe, dernière année des Coupes des Coupes. Ensuite, on remonte en D2. Et puis voilà. Donc, moi, mon gros regret, je le dis bien, c'est mon club. Formateur, mon club de cœur, c'est le Nîmes Olympique. Et mon gros regret, c'est de ne pas avoir pu fouler la pelouse des Costières en étant en Ligue 1.
Et oui,
c'est voilà.
Bon, il y a quand même, vous avez marqué une page d'histoire quand même incroyable d'être en finale de Coupe de France en étant en national. C'est quand même une sacrée page de l'histoire. Et d'ailleurs, en fait, les 23 ans cette année, puisque le 14 avril, c'était cette fameuse demi-finale face à Montpellier.
Ouais.
On en parle encore.
Quel souvenir. Oui. Ça a été 15 jours très particuliers pour nous les joueurs, puisqu'on s'était quand même, entre guillemets, fait attaquer dans la presse par les joueurs qui pensaient qu'eux étaient déjà en finale. Et puis nous, de par notre insouciance, de par notre envie, on a créé la surprise quand même. On ne l'a pas usurpé, hein, parce qu'on a quand même fait le match qu'il fallait. Et puis, puis c'est passé que ce stade plein à craquer avec Loulou Nicolin, qui a été pris... cher de le fait d'avoir dit que s'il perdait, il rentrait à cheval. Donc voilà, c'est des anecdotes, mais c'est des souvenirs inoubliables pour tout le monde.
Eh bien, on va s'écouter d'ailleurs un petit extrait, ce fameux but de Ramdan face à Montpellier. On écoute ça tout de suite.
Bon ballon de Zunia pour Ramdan, il est passé. Ramdan, petit pont sur Serge Blanc.
C'est donc Ramdan qui allume ce premier pétard, et ce sera le dernier d'ailleurs, puisque c'est celui qui va nous donner le but de la victoire, il me semble, lors de cette demi-finale, qui verra donc Nîmes aller en finale face à Auxerre.
Mais il récidive au Parc.
Il récidive au Parc, oui, exactement.
Non.
C'est
Abder qui centre et c'est Omar Belbé.
Voilà, exactement. Nous, on est trop jeunes. On est né en 96. Excusez-nous.
Demandez-moi, je vous réponds.
Il y avait des présents autour de cette table.
Non, c'est pareil.
Et bon, départ de Nîmes, évidemment, parce que tes performances sont remarquées. Et tu pars à Lille avec le coach Vaïd, avec qui tu connais monter en D1. Et après, ce fameux but face à Parme, on parle tout le temps.
En Coupe d'Europe, c'est vrai que ça fait partie des choses que moi parle souvent avec mon aventure à l'OM et puis surtout le plâtre avec lequel j'ai pu jouer pendant un an. Je pars parce que ça faisait déjà 7 ans que j'étais présent, je pouvais re-signer, c'est mon club de cœur, je le dis, je le redirai toujours. Et puis à un moment donné, j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression qu'on voyait plus mes défauts que mes qualités. Et puis j'avais envie de franchir un palier avec un club peut-être un peu plus ambitieux que mon club de cœur. Et puis j'ai fait le pas d'aller à Lille, et puis ça m'a souri, puisque de là, la Ligue 1, la Champions League et tout ce qui va derrière.
Eh bien, on écoute juste un petit extrait, toujours de Christophe Jost, qui rappelle d'ailleurs que Johnny Ecker et Nîmes, on l'écoute, ce fameux but face à Parme.
Boum, Johnny Ecker. Quel but, le pied gauche de Johnny Ecker, le Nîmois. Et Lille qui ajoute un deuxième but sur la pelouse du stade Ennio Tardini. Oh, quel but de Johnny.
Extraordinaire coup franc. Mais vraiment extraordinaire coup franc, pourvu qu'on ait des belles images. Ça ferait pour ses débuts sur le stade de Parme, eh bien, il ne doit pas en revenir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un tir imparable. Regardez, décalage, et les jaunes n'y vont pas. Il le laisse prendre son élan. Et là, c'est une frappe terrible de puissance. Elle n'est pas pleine lucarne, mais elle est tellement forte. À 2-0, l'affaire n'est plus tout à fait la même.
Et voilà, c'est Charles Biétry qui rappelle donc cette magnifique frappe de Johnny Ecker sur coup franc 30 mètres, une frappe exceptionnelle qui verra donc Lille participer à la Ligue des Champions par la suite. Et ensuite, c'est donc l'Olympique de Marseille qui se présente avec ce fameux match face au Real Madrid, c'est ça, hein, avec les Figo,
oui,
Ronaldo, entre autres.
Les Galactiques.
Je résume, mais c'est vrai qu'on se souvient surtout de ce passage. Ensuite, Guingamp, c'est bien ça, une saison.
Une saison. Oui.
Et puis, la dernière année, pour boucler la boucle, on va dire, au Nîmes Olympique en National en 2006-2007, juste avant la montée en Ligue 2, la saison de la montée.
Oui, la dernière année. Bon, après, je suis blessé, je fais 3 opérations de la cheville. Dû justement à 14 ans au plus haut niveau avec des entorses à répétition, et puis à un moment donné, avec la collaboration d'Alain Rata, qui me fallait impérativement me faire opérer, donc on s'est mis d'accord pour arrêter et puis faire le maximum pour ne plus souffrir.
Et après, c'est donc retour à Beaucaire en amateur, c'est ça.
Voilà, c'est Bagnole. Avec mon ami Youssef Bouzard qui m'a ébranché. Je connaissais pas du tout le monde amateur et j'en avais un peu peur. Et puis il m'a fait connaître des gens extraordinaires à Bagnole. Et puis on est monté, on a fait vraiment des choses bien comme il faut. Et puis après, je suis revenu à Beaucaire,
aux
sources où j'avais débuté. Et où j'en étais parti pour faire ma carrière. Et puis voilà. Puis après, entre autres, il s'est passé certaines choses. Et maintenant, j'ai créé mon propre club de football à Beaucaire.
Et ben voilà, je voulais l'annoncer moi-même, mais tu l'as parfaitement fait. Donc aujourd'hui, tu as fondé l'Espoir Football Club Beaucairois, c'est ça?
Tout à fait, éducateur,
et tu es toujours président, il me semble.
Moi, je suis président. J'ai créé le club. Ouais, j'ai pris le club avec des gens qui m'ont aidé. Et puis voilà, parce que bon, on est parti du stade où j'étais responsable. Je ne vais pas revenir sur les faits. J'ai voulu créer ce club, j'en suis très fier. On arrive à 4 années maintenant, on a pratiquement tous nos jeunes au plus haut niveau. Et puis voilà, je transmets ma passion à mes éducateurs, à mes joueurs, à mes enfants, à mes gamins. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est ça.
Bon, mais écoute. On est très heureux de pouvoir parler de ton activité, justement.
C'est très gentil.
Et Merlin, mais il a quelques questions à nous poser. Ça lui mord les lèvres, là, je le vois. Il en dément.
Ben, moi, je voulais te parler, en fait. Donc, c'est un club très récent, donc il y a 3-4 ans, si je ne me trompe pas.
3 ans et demi.
3 ans et demi, voilà. Et il y a déjà une réputation assez forte dans le Gard, et même un peu plus loin que le Gard, dans toute la région, pour être devenu un club formateur. Et qui voit partir beaucoup ses joueurs du côté de Montpellier, du côté de
Nice. De Marseille, de Nice notamment.
Voilà. Et je voulais savoir comment ça se passait et comment ça se fait que si peu de joueurs aillent vers Nîmes.
Alors qu'on en voit pas mal du Stade Beaucairois, des jeunes du Stade Beaucairois qui vont à Nîmes.
Oui, c'est possible. Alors, je ne regarde pas les autres. moi, on me pose souvent la question, on m'a même fait beaucoup de reproches sur ça. Alors, je vais être très clair là-dessus. Les joueurs qui ont été proposés, qui ont signé à Montpellier, Nîmes Olympique, pour certains, les ont vus et n'ont pas donné suite. Donc c'est peut-être facile aujourd'hui de dire que Johnny Ecker, il préfère mettre ses joueurs à Montpellier, à Nice ou à l'OM, plutôt qu'à Nîmes, et la réalité, elle est là. C'est que Nîmes a refusé de les faire signer pour X raisons, ça ne me regarde pas. Par contre, voilà, les autres ont réussi ailleurs. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, il y en a de chez moi qui partiront. Il y en a déjà de l'EFCB qui sont partis en plus jeune. Donc voilà, moi, mon but, voilà, vous l'avez dit, c'est club formateur. On transmet la passion avec une rigueur. J'y mets énormément de rigueur, sinon on n'arrivera à rien. Les parents sont au courant. On a des résultats. Je tire mon chapeau à tous mes éducateurs, à tous mes bénévoles. Il faut savoir qu'on est un club bénévole. On a 305 licenciés. On est un club qui vit bien, qui est dans la difficulté de recherche de sponsors, de recherche. Je m'occupe de tout, moi. C'est pas toujours évident, mais voilà, on essaie de s'en tirer du mieux possible. On a quand même la municipalité de Beaucaire qui nous aide. Faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, on essaie de faire en sorte de continuer à grandir doucement sans regarder les autres. C'est ce qui nous fait avancer.
Très bien. Bon. Si on veut vous retrouver, c'est au niveau du stade qui est vers Carrefour, c'est ça?
Oui, voilà. Nous, c'est la Moulinelle, c'est le complexe sportif, Fernand Lamoureux, le retraité, malheureusement, qui est décédé il n'y a pas longtemps, un homme exceptionnel. Et puis, voilà, le complexe Fernand Lamoureux.
Donc sur Beaucaire, on le rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop la cité beaucairoise, c'est donc sur Beaucaire que tout cela se passe. C'est quand même une vraie prouesse d'avoir autant de licenciés. Et sur deux clubs d'une ville de 15 000 habitants, quand même, c'est quand même une vraie prouesse. Donc on a envie de dire bravo à Beaucaire, qui a un club de futsal, qui a un club en
tout
CFA2.
Tout à fait, j'allais y venir.
Et, donc l'Espoir Football Club qui quand même met beaucoup de joueurs, quand même pas au niveau olympique, c'est dommage, mais qui met quand même pas mal de joueurs.
Oui, il y en a qui vont y aller quand même. Oui, je pense que la ville de Beaucaire peut être fière de une toutes ces activités quand même, ouais, du foot, ouais. Entre le stade Beaucairois qui est en National 3, entre le futsal qui est en Ligue 1, et puis nous qui est même un club un peu formateur avec des jeunes qui partent à droite à gauche. Pas trop mal, on va dire. C'est pas trop mal, voilà. On s'entend pas tous peut-être, mais on avance chacun de notre côté. C'est plus important pour nos licenciés.
Bon, mais impeccable. On va maintenant enchaîner sur ce match qui nous intéresse, celui de samedi. Deux clubs, donc l'OM et Nîmes, dans lequel Johnny Ecker a joué. Ben, on va faire une petite troisième mi-temps et revenir sur ce match.
Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Et donc ce match face à Marseille, une défaite de 2-1 ou une victoire de 2-1, ça dépend pour certains.
Non, ça dépend pas. Hein.
Non, on va dire une défaite de 2-1, évidemment, pour les Nîmois face à Marseille, donc avec un but de TJ Savanier sur pénalty et une fin de match un petit peu houleuse qui a suscité des débats. Johnny, est-ce que vous étiez au match?
Non, du tout, je n'étais absolument pas au match puisque j'étais, moi, à un match avec mes 15 ans où on jouait pour... toucher le Graal, puisqu'on est monté en excellence avec nos U15. Donc c'est pour ça que je ne peux pas être présent au stade.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez pu revoir ce match du coup ou pas du tout?
Je ne l'ai pas revu. J'ai vu les buts. Je me suis renseigné également, puisque j'ai quand même pas mal de personnes qui étaient présentes au match. Ce que je peux en dire, c'est que peut-être le contexte Vélodrome, le contexte Marseille a fait que certains n'ont peut-être pas été au niveau. On ne peut pas leur en vouloir. Il y avait un club, l'Olympique de Marseille, qui devait impérativement avoir du résultat. Donc c'était peut-être pas facile. Et puis bon, les joueurs, les Nîmois, avec le match qu'ils ont pu faire le mercredi contre Rennes, je pense qu'ils pouvaient aussi avoir le droit à un moment donné de ne pas toujours être bon ou être en forme. Et puis voilà, on a peut-être fait un non-match, les Nîmois, mais c'est regrettable, certes. Mais l'essentiel, c'était de se maintenir et c'est fait, donc c'est beau.
Exactement. Et puis, sans parler du match aussi de samedi face à Caen, donc ça fait trois matchs en 7 jours. Ça fait beaucoup pour un effectif assez réduit. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de Bernard Blacard, le coach nîmois, qui revient sur ce match.
Frustré sur le score et frustré aussi de notre match, du contenu. Parce qu'on n'a pas joué, je pense. Est-ce qu'on a été inhibé par le contexte? Est-ce qu'on n'avait pas les jambes qu'il fallait, parce qu'on a joué, c'est notre troisième match en une semaine, alors qu'on avait joué trois matchs en un mois et demi, donc ça faisait beaucoup. Est-ce qu'on a été un peu, on s'est pas libéré, on a essayé de se libérer à 2-0, c'est un peu dommage, quoi. Alors que les consignes n'étaient pas dans ce sens-là, mais inconsciemment, les joueurs ont été très très prudents, trop prudents. On n'a pas été bon dans le jeu offensif en général. On n'a pas assez osé, on n'a pas tenté, on a beaucoup de pertes de ballon. On s'est réveillé à 2-0 en première mi-temps. Enfin bon, moi je sais qu'au bout de 5-6 minutes, on avait déjà perdu 5-6 ballons. Je ne vais pas dire facile, mais par manque d'envie d'attaquer ou de la conserver, on se contentait de défendre. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Marseille aurait pu mener 1-0 à la mi-temps, ça n'a pas été le cas. Il n'y avait pas de dégâts, donc pour nous. Il y avait la possibilité de faire un résultat, je pense, aujourd'hui. Mais on n'avait peut-être pas les jambes et donc pas les intentions. En tout cas, les intentions ont été trop tardives.
Voilà, donc le coach Bernard Blacard qui revient sur cette défaite, qui dit un petit peu globalement ce qu'on ressortait un petit peu avant. Qu'est-ce que vous en ressortez? Moi, j'ai trouvé quand même des Nîmois un tout petit peu trop frileux, alors que d'habitude, on les connaît justement pour ce côté un petit peu beaucoup d'allant, mais il y a aussi cette fatigue. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, messieurs?
Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient en deuxième mi-temps, surtout un peu cramés, mais je pense que c'est clairement l'enchaînement des matchs qui veut ça. On les a vus moins conquérants que ce qu'on a pu voir sur les matchs récents, notamment ça s'est traduit au niveau du nombre de tirs, parce que le nombre de tirs était faible. 3 tirs cadrés, c'était les résultats les plus faibles, parmi les plus faibles de l'année. Le seul où c'était pire, c'était contre Guingamp. Et ça s'est ressenti, ouais, effectivement, physiquement, même si en fin de première mi-temps, pour avoir vu le match avec toi au Vélodrome, on y croyait clairement. On sentait plutôt Marseille dans la difficulté, qui avait du mal à concrétiser ses actions. Et puis ensuite, il y a eu ces buts hors-jeu refusé certes par la VAR, mais qui ont clairement donné une direction sur le match et sur la domination marseillaise. Et puis ça s'est concrétisé. Après, évidemment, on aura l'occasion de revenir sur le pénalty de fin de match.
Cette fameuse fin de match, exactement.
Cette fameuse fin de match. Il y avait pénalty, hein. Pour moi, c'est une évidence qu'il y avait pénalty. Après, la défaite n'est pas imméritée, quoi. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait fait 2-2. faut pas se leurrer, ça aurait été un peu un hold-up de fin de match.
Merlin, toi, t'étais au match. Est-ce que tu as un petit peu des regrets sur le match? Tout à l'heure, on parlait d'un joueur, c'était Florian Miguel qui t'avait bien plu depuis deux matchs.
Ouais, Miguel, on l'attendait pas. C'est un joker qu'on attendait plus faible que ce qu'il est actuellement. Donc, je suis très content de lui. Après, comme dit Bill, moi, j'ai beaucoup de regrets sur le penalty. J'ai revu l'action, revu. Je comprends pas qu'on puisse pas siffler. Enfin, je comprends aussi qu'il ait le fait qu'il ait déjà refusé deux buts, qu'on soit au Vélodrome, qu'il ait déjà donné un penalty à Nîmes.
Ouais, c'est surtout ça en fait. C'est ce qu'on se disait pendant le match. Il y a eu deux buts refusés pour Marseille, un penalty pour Nîmes. On se disait, ça paraît compliqué qu'il cède à la pression, qu'il donne un deuxième penalty pour Marseille. Je pense que ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait de Denis Bouanga qui est juste après le match et qui parle de son avis sur ce penalty.
Oumout qui a la balle. Donc du coup, je prends, je veux aller frapper de base. Donc je vois que je peux pas frapper en une. Je décide de faire un crochet derrière la jambe. Frapper ensuite. Au final, Bouna il met son pied à moi et je frappe un tout petit peu. Donc je vois pas où est la faute en fait. Et ouais, il tombe, il prend la main. Donc pour moi, il y a penalty. Après, je sais pas ce qu'il a dit. Il dit qu'il y a une petite faute avant.
Donc. Voilà, donc Denis Bouanga qui revient sur cette fameuse fin de match et ce penalty non sifflé qui aurait pu tout changer. C'est vrai que c'est une décision un petit peu compliquée à vivre, mais. Bon, malheureusement.
Mais on peut le regarder 15 fois, il y a 15 fois penalty, je pense. Hein.
C'est
quand même.
C'est tout à fait ça.
C'est vrai que.
Le mec qui s'arrête sur le ballon, il le prend. Enfin bon.
C'est vrai que c'était ça qui nous avait tous surpris, c'est qu'en fait, Bouna Sarr tombe, mais après s'être relevé, puisque Denis Bouanga frappe dans le pied de Bouna Sarr.
Il frappe à peine en plus. Hein.
Et Bouna Sarr tombe largement après.
Ouais.
Bon,
il attrape le ballon
volontairement avec les mains.
C'est surtout ça.
C'est une situation
qui tombe.
Un petit peu bizarre. Donc, est-ce qu'on peut dire des regrets après ce match?
Moi j'aime bien les hold-up. Hein, de toute façon, enfin j'aime bien les hold-up quand on les fait nous. Oui, évidemment, ramener un point du Vélodrome après les avoir battus au Costières, on serait reparti la tête encore plus haute qu'on est parti là, mais on n'est pas parti la tête basse non plus.
Hein. On n'a pas à rougir de cette défaite. Après, je reviens un petit peu sur l'état physique avec un effectif restreint. Il ne faut pas l'oublier avec pas mal de blessés. Et surtout le match qu'ils ont pu faire contre Rennes mercredi
avec des bouches d'énergie.
Ouais. Rennes n'a pas fermé le jeu non plus, donc ça a été vraiment que des attaques, ouais. Une intensité à tout moment. Et puis je pense que oui, effectivement, le Vélodrome est grand. Faut pas l'oublier aussi, le contexte, je me répète.
Beaucoup de gens l'ont rappelé, en effet.
Voilà, ouais. Donc, peut-être manque de fraîcheur sur ce match.
Bon, impeccable, on a bien débriefé ce match face à Marseille, et puis on va enchaîner maintenant sur ce match à Bordeaux en troisième partie. On se fait une petite pause et on se retrouve dans le 11 de Nîmes sur Rage juste après.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Et on est de retour dans le 11 de Nîmes, l'émission, la 24e déjà, avec Johnny Ecker qui a donc joué au Nîmes Olympique et on est très heureux de l'avoir avec nous. On est aussi avec Merlin, on est avec Bill. Et cette troisième partie, elle va être consacrée au match de samedi face à Bordeaux. C'est la 33e journée qui va se dérouler donc au Costières à 20h. Déjà, beaucoup de places qui ont été prises. Le pesage était pris d'assaut, il me semble, Merlin, hein, c'est ça?
Oui, le pesage est plein et je crois que la Sud aussi.
La Sud aussi est pas mal et peut-être un guichet fermé, qui sait, pourquoi pas, avec une Nord pleine.
C'est super hein, quand même de voir que l'engouement baisse pas, même si maintenant manifestement on n'a plus rien à jouer, même si on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve ça super que le stade continue à afficher complet, ne serait-ce que pour féliciter l'équipe de son parcours et de voir que ça, là, les beaux jours arrivent. C'est vrai qu'on l'avait vu contre Rennes, c'était quand même super agréable, le match à 19h avec le soleil qui se couche. Et,
je crois que c'est un bon retour pour nos joueurs et pour cette belle saison. Allez, on enchaîne tout de suite donc avec l'échauffement face aux Girondins de Bordeaux.
Le 11 de Nîmes.
Jouez devant votre famille, vous jouez devant vos amis. Quoi qu'il se passe, on va au bout ensemble.
L'échauffement.
Et c'est donc Bordeaux qui se présente pour ce nouveau match au Costières, 33e journée, donc je l'ai dit, de Ligue 1. Bordeaux qui est donc à 5 points derrière le Nîmes Olympique. Messieurs, vos avis sur cette équipe de Bordeaux et sur ce match qui arrive donc samedi. Qu'attendez-vous de ce match de la part des Nîmois?
Déjà, on se souvient tous du match aller qui avait quand même été spectaculaire avec le 3-3 qu'on avait fait là-bas à Bordeaux, qui était en début de saison. De mémoire, c'était...
En pleine feria, oui.
En pleine feria, exactement.
Merlin a surtout retenu sur la feria. C'est un marqueur pour Merlin.
Ça faisait un bon mélange des deux. C'était au moment justement... Juste après l'exploit contre Marseille, peu de temps après l'exploit, enfin le non-exploit, mais qui a ressemblé à un exploit contre Paris. Donc c'était une manière de jauger l'équipe, et puis on se demandait où est-ce qu'ils allaient s'arrêter. C'est vrai que le match, moi pour le coup, je me souviens l'avoir vu chez moi seul, et j'étais comme un dingue devant mon écran tout seul.
Ce fameux but de Bobichon, un short franc, quelle pépite de Bobichon qui allait ensuite nous régaler tout au long de la saison. Il y avait Oumout Bozok aussi, je crois.
Bozok et Guillaume, deux buteurs qui auraient bien besoin d'en marquer
nouveau. C'est peut-être le moment. Et à l'époque, c'était Ricardo, donc l'entraîneur de Bordeaux, qui est parti depuis, puisque Bordeaux a connu de nouveaux investisseurs, des investisseurs américains. Et depuis le 8 mars 2019, c'est Paulo Sousa, un entraîneur portugais de 48 ans, qui a notamment entraîné la Fiorentina en Italie et le FC Bâle, c'est ça, Merlin ?
Oui, et c'est le troisième entraîneur de la saison. Parce qu'il y avait aussi...
Et Eric Bédouin, non, je crois. Non,
c'était Poyet.
Ah oui, c'est vrai qu'au début de saison, c'était
premier match.
Ils ont eu beaucoup d'entraîneurs, Bordeaux, beaucoup de changements. Ça,
année de transition.
Ça change totalement avec nous. Nous, on est très fidèles à notre coach Blacard, qu'on espère avoir toujours avec nous l'année prochaine.
C'est un Bordeaux en difficulté qu'on va rencontrer quand même aussi. Donc
Exactement, et j'allais d'ailleurs y venir, puisque Paulo Sousa donc, est là depuis 4 matchs, une victoire face à Marseille, une défaite et 2 matchs nuls. Et j'ai regardé sur aussi ses dernières compos, à chaque fois c'est 3 compos différentes. Il hésite avec des défenses à 3, des défenses à 4 défenseurs.
Il a joué à 5 là.
Il a joué à 5 à Saint-Etienne avec que des jeunes, hein, c'est ouais, ça, puisqu'ils avaient... Ouais. Ils avaient
3.
Ils ont craqué à Saint-Etienne.
Ouais, sur la fin. Saint-Etienne reste une belle équipe, mais ouais, quand on joue à 5, ils jouent plus rien, le maintien est assuré, donc c'est bizarre de rester toujours à 5 derrière. Je trouve que c'est un peu gâché. Après, chacun a sa tactique, mais quand même mieux de jouer pour essayer d'aller marquer des buts.
Ah ben justement, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Vous êtes plutôt philosophie Blacard, alors pour une philosophie plutôt avec beaucoup d'intensité, de toujours aller vers l'avant, patentiste.
Je joue jamais un match pour le perdre. Voilà, c'est ce que je peux expliquer à tous mes gamins. Et bon, moi, je suis éducateur des U15. Ça peut paraître bizarre, c'est peut-être dur de dire maintenant. J'ai samedi ma demi-finale de Coupe d'Occitanie à Montpellier chez l'Ogre. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais je ne jouerai pas le match pour le perdre. Je ne chercherai pas à jouer à 5 ou 6 défenseurs. Je jouerai le jeu que j'ai habituellement.
C'est une mentalité qui nous plaît, ça anime en tout cas. Et justement, je rebondis sur cette défense décimée bordelaise face à Saint-Etienne. Donc il y en a pris 3, hein, avec des Wabi Kazri, des Rémi Cabella en face. Ça paye cash. Et c'est Pablo, le défenseur brésilien, qui était suspendu notamment et qui le sera encore samedi face au Costières. Donc peut-être à exploiter cette défense bordelaise un petit peu... jeune qui a très peu d'expérience. On connaît le jeune Jules Koundé qui est très bon du côté de Bordeaux, mais j'ai vu aussi beaucoup de très jeunes joueurs qui ont 18-19 ans et qui n'ont pas forcément d'expérience à ce niveau. Peut-être nous, de notre côté, profiter de cela
et relancer nos joueurs qui ont du mal à marquer, comme on le disait tout à l'heure.
Exactement, avec d'ailleurs un Rachid Alioui qui a un peu du mal ce week-end face à Marseille.
Il était cramé, je pense.
Dos au jeu, ça a été très difficile pour lui, malheureusement. Très peu de duels gagnés et peu de réussite. Un petit mot de nos anciens Nîmois avec Merlin. Tu pourrais nous parler peut-être de Maxime Pungé qui a joué en national avec nous. Ça remonte. Hein,
il y a Pungé qui avait été prêté par Bordeaux.
C'est ça d'ailleurs, qui a fait sa première saison en pro avec nous, je crois.
Oui, et j'étais fan de lui.
Tu étais un grand fan de cet arrière-gauche, Maxime Pungé, mais je crois pas que les Bordelais soient hyper fans de Maxime Pungé.
Non, je crois que c'est un joueur de rotation.
Hein. Et cette année, je crois qu'il est un petit peu plus titulaire du côté de Bordeaux. Et j'ai même trouvé la présence de Driss Trichard qui est un joueur en réserve. Et qui avait joué, je ne sais pas si tu t'en souviens, Merlin, avec nous en réserve il y a 3-4 ans, qui est formé à Toulouse. Ouais, ça, c'est... Tout le monde me regarde avec des grands yeux. Ça, c'est mon côté pointilleux, messieurs. Vous voyez, je vous cherchais des joueurs que vous ne connaissez même pas. Et juste, peut-être, Bill, pour revenir sur le dernier match entre les deux équipes au Costières en première division, est-ce que tu t'en souviens? Tu n'y étais pas,
j'y étais, doute,
mais tu t'es informé sur ce dernier match.
Le dernier match en 93. J'y étais pas, mais j'étais né, moi.
Merci, c'est notre avantage.
Le dernier match, c'était un match nul en 92-93. Avant ça, il faut remonter, forcément, ça, c'est notre retour en Ligue 1 fait que les matchs match s'espace. Il faut remonter avant ça en 83-84 avec une victoire bordelaise. Et pour voir une victoire nîmoise, bah, c'est l'année 79-80. Là, par contre, je n'étais pas de ce monde. Et c'était un 2-0 de Nîmes, 79-80. Donc, c'était pas au Costières, c'était à Jean-Brun.
À Jean-Brun avec un doublé de Gilbert Marguerite pour les plus connaisseurs.
Mais moi, je vois bien une victoire là quand même parce que j'ai regardé du coup les chiffres de Bordeaux sur leur dernier match, pas seulement, sur les 13 derniers matchs, ils ont gagné que deux fois quand même Bordeaux. Une fois une victoire de prestige effectivement contre Marseille, contre un Marseille qui doutait de lui à ce moment-là, une autre fois contre Toulouse. Mais sinon, c'est des nuls, des défaites, beaucoup de nuls effectivement, ce qui leur assure leur maintien, mais on ne peut pas dire que leur saison soit à la hauteur de leurs ambitions.
Et juste pour revenir sur ce match en 1993, sur la pelouse, il y avait pas moins de 4 champions du monde. Il y avait Laurent Blanc côté Nîmois et du côté bordelais, il y avait les jeunes Lizarazu, Zidane, Dugarry. Et même pour les plus connaisseurs, il y avait un certain Ronan Salin qui a joué au Nîmes Olympique au début des années 2000. Donc à l'époque, de beaux joueurs quand même.
Ça se trouve sur la pelouse de ce week-end, il y aura 4 futurs champions du monde.
Peut-être aussi. Il y aura peut-être TJ Savanier, peut-être.
Et sur leur match contre Saint-Étienne, quand même, Bordeaux a fait que 4 tirs, dont un tir cadré. Ils en ont subi 14. Ils se sont vraiment fait extrêmement dominer dans le secteur de jeu offensif. Alors que la possession de balle était à peu près équilibrée, elle. Mais ils jouaient effectivement beaucoup derrière, comme le disait Johnny tout à l'heure.
On va peut-être rappeler l'arbitre aussi pour ce match. C'est Florent Batta, je crois. Je crois que c'est Florent Batta qui nous a arbitré cette saison. C'était lors de la victoire face à Caen 2-1, où Oumoud Bozok avait aussi buteur. Est-ce que tu vois
la ligne directe.
Il y a des planètes, à mon avis. Maintenant,
on parle des arbitres, mais il faut peut-être aussi parler de ceux qui sont dans le cas, à la VAR aussi.
Ouais, c'est eux les maîtres du monde, maintenant. Et donc, M. Batta qui a distribué 33 cartons jaunes, 4 rouges en 16 matchs de Ligue 1. Oui, on a des stats exactement. C'est très peu comparé à d'autres arbitres de Ligue 1. Donc, ce week-end, normalement, part d'Anthony Briançon.
Ouais, avant ça, toujours sur Bordeaux, j'ai un petit chiffre qui peut nous intéresser parce que je crois qu'on va avoir l'occasion un peu de parler de la fin de saison, du mercato, etc. Bordeaux, en 2011-2012, au même nombre de matchs, c'est-à-dire à 32 matchs, avait également 43 points. Et derrière ça, Bordeaux gagne ses 6 derniers matchs et va en Europa League ensuite. Et ils vont jusqu'en 8e de finale en battant notamment dans la phase de groupe Newcastle. Et voilà. Donc on peut encore rêver. Hein.
T'es en train de dire que l'année prochaine, c'est l'Europe, c'est ça?
Bah, 18 points. Faut gagner tout. Faut commencer par gagner contre Bordeaux, puis ensuite, il faudra enchaîner. Mais
qui sait,
voilà.
Pourquoi pas?
Ça reste encore jouable avec un bon facteur de rêve, on va dire, dessus, mais ça reste encore jouable.
Et pour revenir donc sur les absents ou pas, d'ailleurs, c'est Paul Bernardoni qui est prêté par Bordeaux et qui avait joué donc le match à l'aller. Normalement, qui devrait être là ce week-end. Donc, il aura une preuve de montrer ses qualités face à son futur ex-précédent club. C'est un peu bizarre.
Il aura peut-être pas envie d'y aller même.
On va peut-être presque lui dire d'être pas trop bon pour que Bordeaux nous le laisse l'année prochaine.
De se trouer 15 fois.
Peut-être. On ne sait pas s'il y aura le retour de Sofiane Lacouche et de Loïc Land. Ce sera la grande surprise, messieurs. Vos avis sur ça?
Je crois dur comme fer au retour d'Alacouche, titulaire.
Bah, écoute, j'aimerais bien que tu aies raison.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, Renaud Ripard qui a magnifiquement dépanné au poste d'arrière droit de nouveau à Marseille. Il a été impressionnant dans son couloir aussi face à Sakai. Ça a été deux joueurs, deux guerriers, deux warriors sur ce côté droit pour Ripard et côté gauche, côté Sakai, mais qui était du coup dans le...
C'est plus du dépannage à ce stade-là, hein, Ripard. J'aimerais bien avoir les chiffres en fait, du nombre de matchs où il a été aligné ailleurs qu'en attaque. En fait.
En début de saison aussi, face à Dijon, il avait joué à ce poste, il a toujours répondu présent, hein, globalement, donc peut-être une alternative pour l'année prochaine, quand on sait que Sofiane Lacouche fait partie des joueurs bankable pour potentiellement récupérer de l'argent. C'est un peu, moi je vais te parler comme ça, mais c'est une triste vérité, malheureusement. C'est une possibilité que Renaud Ripard passe peut-être à terme à ce poste. Donc,
et ça l'empêche pas de marquer, comme on l'a vu.
Exactement.
Il nous reste un peu de temps au niveau du mercato. Toi, est-ce que tu as des joueurs, Johnny, que tu aimerais voir arriver dans cette équipe ou des joueurs à surtout conserver à 100%
Oui, bah on aimerait déjà garder tous nos jeunes, tous nos joueurs qui sont formés, mais je sais trop bien ce que peut être une fin de saison avec une équipe très jeune et qui fait un championnat exceptionnel ou extraordinaire. Donc les sollicitations, elles y sont, oui, pour tout le monde. Maintenant, on a un président qu'on connaît très peu. Est-ce qu'il va vouloir gagner de l'argent? Est-ce qu'il va vouloir pérenniser un petit peu tout le monde qu'il a avec lui? Ouais, ça va être, je pense, très compliqué de garder pas mal de joueurs parce qu'ils sont tous plus ou moins sollicités. Et dans la tête de certains, ça peut déjà jouer aussi, puisque bah, quand à un moment donné, vous avez un club plus huppé que ce que peut être Nîmes Olympique et aussi sur l'aspect pécunier. Ça peut jouer dans les têtes. Alors, il n'y a pas que ça. Souvent, on dit, ouais, effectivement, mercenaire. J'ai eu, moi aussi, hein, j'ai eu le droit aussi à l'époque. Hein, c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'en étais parti. On a le droit aussi de pouvoir peut-être rêver d'aller dans un club pour jouer une Coupe d'Europe ou être international. Et qu'on se dit peut-être qu'à Nîmes, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, justement, de réussir à tout ça.
Mais c'est ce qu'on disait, justement, nous, un petit peu en antenne, et notamment avec Merlin. Ce qu'on disait, c'est que Prestigi, on le voit, nous, depuis en Ligue 2, depuis des années, et on a presque envie de lui dire qu'il mérite d'aller plus haut. Peut-être pas du côté de Montpellier ou de Marseille, mais c'est vrai qu'à l'étranger ou dans un bon club, je pense qu'il, sincèrement, à 27 ans, je pense qu'il faut être honnête aussi.
C'est l'âge maintenant pour lui, honnêtement, un tremplin pour pouvoir poursuivre sa carrière, continuer à être ce qu'il est, parce que c'est évidemment un super joueur, et apparemment un homme exceptionnel également. Je pense que lui, il peut avoir un bon de sortie, justement, pour service rendu, oui.
S'il va à Saint-Etienne, il aura la possibilité, a priori, de jouer au moins l'Europa League, voire même si Saint-Etienne accroche la troisième place, on pourrait peut-être voir TJ en Champions l'année prochaine, ce qui serait quand même fulgurant de passer de la Ligue 2 à la Champions League en l'espace de 2 ans. Quoi. Mais ce serait pas immérité
du tout. Franchement, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que TJ mérite clairement.
Après, il n'y a pas que TJ. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'en fait, il n'y a pas un joueur qui sort du lot. C'est la régularité de tout le monde.
Bien sûr. La force d'un collectif.
Voilà, la force d'un collectif. Et puis, y a pas un qui est bon de 2 matchs qu'on voit plus. Alors, certes, il y en a quand même quelques-uns. Mais dans cette équipe, c'est vraiment la régularité de tout le monde. Et les résultats, s'ils ont été là, faut pas oublier qu'il y a eu ça. Et il faut pas non plus négliger aussi le public. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est pratiquement plein à tous les matchs. Tout le monde s'arrache les places. Je suis moi-même abonné avec mon fils, avec la famille, les amis. On est tout le temps présents au match. Et je pense que nous, on les pousse quand même à se surpasser. Et ça, c'est important pour les joueurs.
C'est vrai qu'il y a quand même finalement peu de stades en Ligue 1 où il y a cette ambiance, ce ratio de remplissage de stades qui est quasi complet à chaque match.
Et je pense qu'avec un peu à jouer, ça serait encore, plus fou, quoi. C'est vraiment
Et que si les caméras étaient placées en or, filmant la suite, ce serait beau.
Aussi, ouais, bon, c'est ton côté pointilleux toujours.
C'est normal, ça. C'est vrai que les typhons, les voit rarement.
Et puis on voit cette tribune nord qui est vide alors que le stade est plein.
Et juste, je rebondis, moi, on en profite, on a Johnny Ecker qui était donc un défenseur central globalement. Anthony Briançon fait partie aussi de ces joueurs qui sont jeunes et qui se font remarquer. Il était suspendu d'ailleurs face à Marseille, il n'a pas pu montrer ses qualités. Un avis, toi, Johnny, sur l'évolution de ce garçon et surtout ses perspectives d'avenir?
Un très bon joueur, un jeune formé au club, un garçon qui a un avenir certain. Et il me fait penser un peu à Benoît Poulain, que j'ai pu avoir avec moi à mes côtés au départ. Et puis on n'a pas su justement garder Benoît en espérant que.
Peut-être un retour.
Voilà, un retour. Je pense surtout pour Anthony Briançon de faire le maximum pour le garder parce que c'est l'âme de Nîmes Olympique.
Bien sûr.
Il en est le capitaine, c'est un très bon joueur, il a surtout cette âme nîmoise et ça c'est important.
Et on peut rêver d'un retour de Benoît Poulain, peut-être.
En fin de contrat à Bruges, d'ailleurs, qui a 32 ans et qui a, on l'a vu récemment dans des interviews, qui a souhaité exprimer son retour.
Ce serait une très bonne chose pour Nîmes.
Ça serait quand même incroyable d'avoir une défense Poulain-Briançon, quand même. Peut-être un retour de Johnny Ecker, là, on aurait une défense à 3.
Johnny, il est casté de partout.
Bon, on va se faire un petit point météo. Ça, c'est notre petite touch Nîmes Olympique. On va faire un petit jingle météo, un petit jingle Catherine Labande, tout de suite. Allez, on en profite que Merlin est présent sur cette émission. On va faire ton petit bizutage. Tu vas nous faire la météo du match de samedi face à Bordeaux. Merlin, on t'écoute.
Bien, là, cette semaine, c'est difficile. Hein. Il fait gris. Mais normalement, tout devrait aller pour les Costières. Vous pouvez aller en Est, il fera beau. Un petit peu de soleil, 20 degrés. Prenez un petit kawaii quand même, on sait jamais. Mais...
Alors ça, c'est parce que tu n'es pas souvent à Nîmes. Mais ne prenez pas de kawaii, il n'y aura pas besoin. Là. On sent que le beau temps va revenir. Hein.
Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur les pronostics, peut-être dès à présent, et rappeler les cotes de ce match entre Nîmes et Bordeaux, Bill ?
Tout à fait. Eh ben, la cote est de 2,15 pour Nîmes, 3,15 pour le match nul et 3,45 pour Bordeaux, ce qui est une cote assez élevée pour la victoire bordelaise, ce qui semble vouloir dire que les gens qui jouent voient Nîmes vainqueur, ce qui est pas... Enfin, c'est toujours, ça peut paraître présomptueux quand même de voir Nîmes aussi facilement vainqueur contre une équipe comme Bordeaux, qui est une équipe, on va dire, assise en Ligue 1 depuis des dizaines d'années. Et je sais pas. Alors là, moi, je me tâte sur ce
ton
match.
Ton pronostic. T'as d'habitude, si tu mets ton salaire sur Nîmes, il n'y a pas une seule fois.
Ouais, mais là, justement, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien à mettre. Donc, je vais rien mettre sur un match nul, je crois.
Un match nul. Ouais. C'est la première fois que tu mets pas Nîmes vainqueur. Qu'est-ce qui t'arrive?
Regarde mon classement au jeu des pronostics. Tu vas dire qu'il nous reste 6 matchs, que j'ai envie de me voir monter un peu. Non, ouais, je vois bien un match nul avec. Comme à l'aller, quoi. Un match nul, pas un vulgaire 0-0, ouais. Mais un match avec des buts. Avec,
il parlait tout à l'heure de Coupe d'Europe, quand même. Avec le match nul, on peut plus parler de Coupe d'Europe.
C'est vrai. Ah ouais, mince, je suis foutu. Alors, Coupe d'Europe. Maintenant, je joue Coupe d'Europe jusqu'à la fin. Allez, un 4-0 pour Nîmes, on change d'avis.
Voilà, je te retrouve, là, quand même.
Avec un triplé de Bozok.
Avec un triplé de Bozok et un but de Baptiste Guillaume qui a plus marqué aussi depuis longtemps et qui avait marqué contre Bordeaux.
Là, tu mets la famille à l'abri, là.
Exactement.
C'est vrai, comme Johnny le disait tout à l'heure, Bordeaux n'a plus grand-chose à jouer. Nous, peut-être un petit peu, mais inconsciemment, on a nos joueurs qui commencent à se dire peut-être pour l'année prochaine, à penser à l'avenir, se dire qu'aussi la Coupe d'Europe et le maintien, ça paraît compliqué. Justement, je vais parler avec Merlin. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur ce match? Une victoire nîmoise, un match nul?
Moi, je mettrais le 2-1. Je vois bien Costil se trouver.
Ouais.
Je pense qu'un petit but de Briand, quand même.
De Briand pour Bordeaux.
C'est une valeur fiable en Ligue 1. Après, je verrais bien un petit but de Bozok et Ripard.
Bozok, Ripard, 2-1 pour Nîmes. Johnny?
Moi, je vois 3-0 pour Nîmes.
Oh, ah ouais, carrément.
Ouais, je vois 3-0.
Coupe d'Europe aussi.
Oui, Coupe d'Europe. Enfin, Coupe d'Europe, je ne dis pas que je connais assez le football pour dire qu'ils n'y vont pas. J'aimerais qu'ils y aillent. Mais bon, je pense que pour les garçons, ils veulent finir en apothéose à domicile. Là, je me répète, le stade plein. Oui, et puis surtout, ils sont capables de mettre 3-0 à Bordeaux sans aucun problème, je pense. Mmh. Donc voilà. Donc après, ouais, j'aimerais bien que Bozok... oui, s'il est aligné, ouais, qui marque. C'est toujours bien que les attaquants marquent.
Ça ferait une belle crise bordelaise quand même, parce qu'enchaîner une défaite 3-0 contre Saint-Étienne, ouais. Et une défaite 3-0 contre un promu, ouais. Je pense que ça créerait du remous.
Tout va bien, ils ont 43 ans. Ils ont 43 ans d'invincibilité contre l'OM, alors tout va bien.
Bon, de mon côté, moi je verrais une victoire. Allez, 2-0 pour Nîmes. Et puis, Bozok, ça serait bien pour lui de le relancer un petit peu dans. Au niveau de la confiance, je pense qu'il en a besoin. Et puis, toujours, Maestro Savagnier, pour montrer que c'est le meilleur. Peut-être une 11e passe décisive, ça serait bien. Il pourrait passer devant Di Maria, du coup, et devenir seul le premier passeur de la Ligue 1.
Et s'il remet un but, il passe à égalité meilleur buteur avec ses réalisations, avec Banga et Bobichon. Ouais. Sachant que lui et Alioui sont à 5. C'est quand même assez marrant ce
classement des buteurs.
Ce classement des buteurs, on en a 3 à 6 et 2 à 5. C'est vraiment l'image de l'équipe. On l'a déjà dit, mais ça continue à augmenter de cette manière-là. Il y a
une diversité, de pas un seul mec réellement indispensable.
Ouais, c'est un groupe, comme disait Johnny tout à l'heure.
Contrairement à l'an dernier, ce qui est assez marrant quand même, puisque l'an dernier, c'était un duo surtout, mais on est passé du duo au quintet. Et puis, c'est même pas les mêmes personnes à l'intérieur du quintet.
Eh bien, merci à vous tous, messieurs. On se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 24 avril à 13h.
Avant ça, on se retrouve au Costière.
Évidemment,
aussi,
évidemment.
À 20h samedi soir.
Exactement, face à Bordeaux. Donc, on verra si on sera en direct ou pas. Ça, c'est nous qui verrons. Hein. On ne sait pas encore si ça sera en direct mercredi prochain avec un invité. Peut-être Sébastien Gimenez, on l'espère. Et on se retrouve également sur le podcast sur le rage.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes, sur Facebook, le 11 de Nîmes. On vous laisse avec les sons d'aujourd'hui et de demain, juste après votre météo et le Flash Info.
Merci à Johnny pour...
Merci à Johnny Ecker, en effet, pour sa venue et sa disponibilité. Merci beaucoup à lui d'avoir fait le déplacement, fidèle rouge et blanc.
Et à la semaine prochaine à tous.
Yes, allez les rouges et blancs, allez Nîmes, et à la semaine prochaine.
Allez, gros.